Je vous pointe rouge, j'ai un peu dit, c'est ça, oui. Les chants ont vraiment un rapport avec le titre ou le sujet du message ce matin. Parce que le titre du message, c'est « Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce ». C'est ce qu'on a fait à travers des chants. Hein? Rendre grâce au Seigneur. C'est ce qu'on va voir dans le texte de ce matin. J'aimerais continuer. Les dernières fois que je suis venu, on a regardé les différents messages, les différents miracles du Seigneur Jésus. Et j'aimerais continuer dans les miracles du Seigneur Jésus ce matin. Et on va regarder un texte dans Luc 17, mais j'aimerais qu'on tourne à Luc 5 avant. Parce que Luc 17, c'est le miracle où Jésus va guérir 10 lépreux en même temps. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, un des premiers messages que j'avais emmené, on avait regardé le message où Jésus avait guéri un des lépreux. Et j'aimerais relire ça, parce que vous allez voir que dans Luc 17, la guérison des 10 lépreux, il y a bien des choses qui sont différentes dans les deux. Fait que j'aimerais qu'on puisse lire le premier pour, après ça, être capable de le comparer au deuxième miracle. Donc, le premier, c'est dans Luc 5, au verset 12. Nous dit ceci. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne, mais il lui dit, « Va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Là, on va regarder la guérison de 10 lépreux. Et écoutez bien la différence. On vient de lire 5. Écoutez la différence parce qu'on va faire le parallèle entre les deux. Luc 17. À partir du verset 11, nous dit Jésus se rendait à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'ils les eurent vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? » Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vois, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre les deux, et on va regarder la différence entre les deux miracles. Et il y a plusieurs choses qui sont différentes dans les deux miracles. Et on va regarder le passage ce matin avec quatre grands points, si on pourrait dire, que j'aimerais séparer le texte. Le premier, c'est l'importance de la destination de Christ. Ça peut paraître pas important, mais on va voir que c'est important ce que Luc nous dit. La deuxième chose, le cri du cœur des lépreux. Ensuite, la réponse de Christ. Et finalement, le retour d'un seul pour dire merci. Et c'est là l'importance de « rendons grâce au Seigneur ». Pour bien comprendre un texte, c'est important de comprendre le contexte. Et regardez au verset 11, Luc nous dit « Jésus se rendait à Jérusalem, passant entre la Samarie et la Galilée. » Ça peut avoir de l'air. Pourquoi Luc nous dit ça? Jésus se rendait à Jérusalem. Mais comme on va voir, Luc ne le dit pas sans raison. C'est une grande importance pourquoi Luc nous mentionne que Jésus se rendait à Jérusalem. Pourquoi? Retournons à Luc 9, au verset 51. Vous allez voir pourquoi Luc mentionne et l'importance du fait que Luc dit « Jésus se rendait à Jérusalem la journée qu'il a fait ce miracle-là. » Regardez Luc 9:51. Ça nous dit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde, Jésus a pris la résolution de se rendre où? À Jérusalem. » Ce verset-là, dans l'évangile de Luc, c'est un pivot. Jésus a fait son ministère, et là, Luc 9:51, Luc arrête et dit, « À partir de là, Jésus a pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. » Pourquoi? Parce qu'il s'en va mourir. À partir de là, Luc, il dit, là, écoutez-moi bien, là, Jésus, à partir de cette journée-là, il a pris une décision, il s'en va marcher vers Jérusalem. Et nous, au loin, on voyait Jérusalem, mais pas Christ. Qu'est-ce que Christ voyait? La croix. Christ voyait la croix. Et Christ a pris la résolution ferme de dire, à partir d'aujourd'hui, je m'en vais vers une destination, Jérusalem. Et Luc va regarder ça tout le long de son évangile. Tournez avec moi dans Luc 13, 22, ou 9:53, juste après où qu'on était. On a lu Luc 9:53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait où? Sur Jérusalem. 13, 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. 13, 31 et 32. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Et il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, « Voici, je chasse les démons, j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » 17:11, le verset qu'on a lu tantôt. Jésus se rendait où? À Jérusalem. 18:31. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, où tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » 19:11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. 19:28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et après, qu'est-ce qui se passe? Jésus rentre dans Jérusalem, l'entrée triomphale, il mange avec ses disciples et est crucifié. Quand Luc nous dit, Jésus se rendait à Jérusalem pour aller et qui fait ce miracle-là, c'est pas par hasard que Luc nous dit. Il y a une raison. Christ s'en va pour mourir. Et savez-vous ce qui est plus, je dirais, frappant dans ça? C'est que Jésus n'a jamais, jamais changé de cours de route. Dans 9:51, il a pris la résolution de se rendre à Jérusalem et tout au long, Jésus a une destination. Et heureusement que Christ n'a pas changé de bord. Heureusement. Il a pris la résolution dans 9:51 et il a marché jusqu'à Jérusalem. Et là, Luc nous dit, pendant que Jésus se rendait à Jérusalem, il y a 10 lépreux qui crient à lui. C'est surprenant, hein? Christ s'en va à Jérusalem, s'en va mourir. Des lépreux crient à lui et Jésus est encore compatissant. Moi, il me semble, je me serais dit, moi, je m'en vais mourir, les gars, là. Vous autres, vous avez rien que la lèpre. Moi, d'une couple de jours, là, on va me crucifier. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Il Jésus est compatissant. Et c'est pour ça que Luc veut qu'on comprenne que Jésus est en route vers Jérusalem. Jésus est en route vers sa mort. Mais malgré ça, 10 lépreux vont crier à lui plutôt que Jésus de leur dire « J'ai pas le temps, je suis occupé, je m'en vais mourir. Hey, je vais payer votre dette, là! » Luc, il dit, Jésus se rendant à Jérusalem, 10 lépreux crient à Jésus. Qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce que Jésus va faire? Psaume 34 nous dit ceci. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Christ entend. Et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et peut-être ce matin, c'est ton cas. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu vis des temps difficiles. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais sache une chose. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas un Dieu indifférent. Jésus s'en allait vers la croix en marchant à Jérusalem et 10 lépreux crient à lui. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus s'arrête. Il arrête toute la foule. Qu'est-ce que Jésus va faire? Mais c'est la même chose avec nous ce matin. Si tu souffres, si tu as des temps difficiles, sache une chose. Dieu, il n'est pas sourd. Christ, ce n'est pas un Dieu indifférent. Malgré toutes les douleurs qu'il savait qu'il était pour avoir, Christ s'est arrêté. Un cri du cœur. Versets 12 et 13. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et gardez ça en tête, Jésus, là, il est en route vers Jérusalem. Jésus va mourir. Luc nous dit qu'il y a 10 lépreux qui viennent à la rencontre de Jésus pour être guéris. Comme la plupart des gens, probablement, que ces lépreux-là, ils ont entendu Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Jésus a fait des miracles, il a marché sur l'eau, il a guéri des gens. Peut-être qu'ils ont même entendu parler du lépreux qui s'est fait guérir dans Luc 5. Et dans leur tête, probablement qu'ils se disent, Jésus l'a fait une fois, il peut le faire encore. Vous d'accord? Hein, Jésus l'a fait une fois. Oui, on est 10, mais c'est Jésus. Je ne veux pas vous parler des ravages de la lèpre, parce que j'en ai parlé dans le premier message. Comment les gens qui avaient la lèpre étaient défigurés, comment ils étaient rejetés par les gens. Et c'est, dans le fond, ça nous démontre qui on est, nous, en tant qu'hommes, des lépreux, des impurs. Et Christ est venu nous libérer de ça, nous laver. Mais ce que j'aimerais plutôt faire, c'est regarder la différence entre le premier miracle où Jésus a guéri un lépreux et ce matin. Et vous allez voir, il y a plusieurs différences. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais on va les regarder ensemble. Premièrement, ça nous dit qu'il se tenait à distance. Et c'est normal. Lévitique 13 nous dit ceci. Le lépreux atteint de la lèpre portera ses vêtements déchirés, il aura la tête nue, se couvrira la barbe et il criera « Impur, impur! » Partout où il y a lèpre, il faut qu'il crie « Impur, impur! » pour que les gens savent qu'il y avait la lèpre. Et on dit même qu'un jour de vent, tu ne pouvais pas t'approcher à plus que 100 pieds des gens. Fait que t'espérais qu'ils ne vendent pas trop souvent. Tu ne vas pas t'approcher à plus de 100 pieds d'un lépreux. Donc, c'est normal que les lépreux se tiennent à distance de Jésus. Mais qu'est-ce qu'a fait le lépreux dans Luc 5? Il est allé aux pieds de Jésus. Il est allé aux pieds de Jésus. Il n'a pas eu peur de briser la loi pour aller aux pieds de Jésus. Nos 10 lépreux, on dirait, ils n'ont pas tant de foi. Ils n'ont pas tant d'audace que notre ami dans Luc 5. Mais savez-vous ce qui est frappant? Ça n'a pas empêché Jésus de s'arrêter. Il y avait moins de foi que le premier, mais Jésus a quand même arrêté. Surprenant, hein? Des fois, là, notre foi n'est pas grosse, mais ça n'empêche pas le Seigneur Jésus de voir notre foi. En plus, regardez ce qu'ils disent à Jésus. Jésus, maître, aie pitié de nous. Dans Luc 5, qu'est-ce qu'il avait dit? Seigneur, aie pitié de moi. Et en grec, le mot, c'est kurios. Seigneur, souverain, maître, Dieu. Eux autres, ils disent maître, rabbin. Mais malgré ça, malgré qu'ils n'ont même pas vu qui était Jésus, rabbin, aide-nous. Comparé à notre ami dans Luc 5 qui a dit, Seigneur, mon Dieu, Jésus, dans sa compassion, va quand même leur répondre. Surprenant, hein? Et n'oubliez pas, Jésus est en route vers Jérusalem. Et malgré ça, malgré qu'on fasse juste lui dire, maître, Jésus s'arrête quand même. Une autre différence. Notre premier ami dans Luc 5 se retrouve au pied du Seigneur Jésus et lui dit, Seigneur, aide-moi. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils crient au loin. Maître! You! You! Ils crient au loin. Le premier était au pied du Seigneur Jésus. Eux autres sont au loin. Et il faut s'imaginer qu'il y a du bruit. Là. Il y a une foule autour de Jésus. Là. Jésus ne rentre pas dans un village tout seul. Là. Il y a une foule de gens. Et ils crient et Jésus les entend. Pourquoi c'est si spécial? Mais il faut comprendre une chose, que pour un lépreux de crier demandait un grand effort. Pourquoi? Parce que la lèpre attaquait les nerfs. Les cordes vocales, c'est quoi? Des nerfs. Et on appelait ça un chuchotement rauque. C'était difficile pour un lépreux de crier. Mais malgré ça, malgré leur cri qui était probablement pas mal faible, Jésus les entend. Et ça, c'est encourageant pour moi. Parce que des fois, là, je n'ai même pas de force pour crier au Seigneur. Ça vous arrive-tu? Mais malgré ce chuchotement rauque-là, de loin, malgré la foule, Jésus les a entendus. C'est encourageant, ça. Parce que des fois, on peut penser, Dieu ne m'entend pas. Dieu ne m'entend pas. Psaume 34. Quand les justes crient, même s'ils ne crient pas fort, l'Éternel entend et délivre de toute leur détresse. Donc, ils ont crié. Mais ils n'ont pas juste fait ça. Leur cri du cœur a été suivi par un pas de foi. Regardez bien. Une réponse étrange de la part du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Luc 5, Jésus a touché le lépreux. Je ne sais pas si vous en rappelez. Et on avait dit que c'était spécial parce qu'on ne touchait jamais un lépreux. Mais Jésus, lui, l'a touché pour lui démontrer compassion. Ça faisait probablement des années que personne n'avait touché. Mais là, regardez ce miracle-là. Est-ce que Jésus les touche? Non. Même pas. Mais il leur dit quelque chose de bizarre. Regardez ce qu'il leur dit au verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Bizarre, hein? Il ne touche pas. Il ne dit rien. Il fait juste leur dire, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et là, il veut nous montrer l'autorité de Christ sur toute chose, même sur la maladie. Mais vous ne trouvez pas ça étrange que les lépreux disent « Pose pas de questions, Jésus. » Qu'est-ce que ça dit? Ils se mirent en chemin. « Pose pas de questions, Seigneur. » Ils s'en vont. Pourquoi? Ben, s'il y a un lépreux en Israël qui connaissait ce que Lévitique 14 disait, c'est une personne, je dirais, qui connaissait Lévitique 14, c'était bien les lépreux. Et ça disait ceci. Voici quelle est la loi sur les lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp. Il examinera le lépreux. Ensuite, le sacrificateur et sacrificateur fait une série de rituels de purification, puis le déclare pur. Il sera pur. Et ces hommes-là ont bien saisi que Jésus leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur pour une chose. » Mais il y a une différence avec Luc 5. Quand est-ce que Jésus a dit à Luc 5, au lépreux, « Va te montrer au sacrificateur. » Après qu'il l'a guéri. Mais eux autres, il faut juste leur dire « Allez vous montrer au sacrificateur. » C'est parce qu'on n'est pas guéri encore. Ça prend toute une fois. Pour... Jésus n'a rien dit. Il leur a juste dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Ça prend toute une fois, ça. Là. Tu te regardes, là, tu tombes en lambeau. Là. Puis là, Jésus dit « Va te montrer au sacrificateur. » Wow! Et ils partent par la foi. Exactement comme Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, va-t'en d'ici, puis je vais te donner un pays. Abraham, c'est un homme comme moi puis toi. Là. Il a tout laissé en arrière par la foi. Ça prend de la foi pour faire ça. Et ces lépreux-là ont fait exactement la même chose qu'Abraham. Jésus nous a dit, va te montrer. Je vais y aller. Tout un test de foi. Mais on va voir tantôt que la foi qu'ils ont eue est bien. Mais il y a une foi qui est bien meilleure que ça. Parce que la foi qu'ils ont eue, c'est pas la foi qui sauve. Croire que Jésus peut faire des choses pour nous ne sauve pas personne. C'est ce qu'on va voir tantôt. Donc, le fait qu'ils ont eu, par la foi, sont partis, sans être guéris, c'est bien. Mais c'est pas assez. Et on va voir la différence tantôt. Et c'est exactement ce qui arrive. Regardez la fin du verset 14. Pendant qu'ils y allèrent, il arriva qu'ils furent guéris. Wow! Quelle compassion de la part du Seigneur. Hein? N'oubliez pas. Il s'en va où? Vers Jérusalem. Il va mourir. Et malgré ça, le Seigneur Jésus, dans sa compassion, guérit 10 lépreux en même temps, sans les avoir touchés à distance. Wow! Avez-vous un grand Dieu? Imaginez, hein? 10 lépreux en même temps, ils n'ont même pas vu. Ils n'ont même pas vu, ils n'ont pas touché. Et juste pendant qu'ils s'en vont, sont guéris comme ça les 10 en même temps. Pas étonnant que Christ a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir, incluant sur les maladies. On va prendre 2 minutes et on va s'imaginer la scène. Nos 10 amis s'en vont. Là, Charlie dit à Pierre, « Hey, tu ne bois plus. » Ben non, regardons ça, t'as pas quoi? Mon pied est revenu. Pierre enlève ses pansements. Plus rien. Plus de cicatrices. Plus de sang. André dit, « Hey, t'avais pas de nez tout à l'heure, puis ça te fait bien, mon chum. » Est-ce qu'on peut s'imaginer la joie que ces hommes-là ont ressenti. Des années, mis à part, rejetés, t'es obligé de crier impur, impur, Et là, dans un instant, tu es guéri. Je peux m'imaginer l'accolade que ces hommes-là ont eue. Ils ont dit, ah, wow! Wow! J'imagine qu'ils ont pensé au verset dans Jérémie 30, 17 qui dit ceci. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repoussée. Cette Sion dont nul ne prend souci, sauf moi. Jérémie 33, 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Wow! Je peux m'imaginer, les gars, ils disent, là, on a une raison d'y aller au temple. Là, on a une raison. On est guéri. Let's go, les gars, on s'en va au temple. Toute la gang part pour le temple. Sauf un. Sauf un. Le retour pour dire merci. Et ça, c'est une grande vérité pour nous autres ce matin. Regardez les versets 15 et 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il était où tantôt? Au loin. Il tomba aux pieds de Jésus. Et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Imaginez. Je vous ai dit tantôt que ça vient avoir la foi. Hein? Il y a quelque chose de mieux que ça. La foi en Jésus. Croire que Jésus peut faire des miracles, c'est bien. Mais retourner ses pieds et lui dire « Seigneur », c'est mieux. Et on va voir tantôt la différence entre les deux. Il est venu adorer Jésus et lui dire « Merci ». Et j'aimerais se regarder son retour en trois points. Premièrement, son retour. Deuxièmement, sa reconnaissance. Et troisièmement, sa renaissance. La première chose, son retour. Se voyant guéri, il revint sur ses pas. Voyez-vous, notre lébreux a pris une décision. Il s'est arrêté, il s'est dit, « Wow! Moi, avant d'aller au temple, j'ai besoin d'aller dire merci. » C'est une décision de sa part. Il n'a pas pris pour acquis que Jésus lui devait quelque chose. Les neuf autres ont décidé de continuer leur route parce qu'aller au temple était égal à retourner dans la société, était égal à retourner dans leur famille. Dans son sens, ils ont dit, mon bien-être, il est plus important que d'aller dire merci à Dieu. C'est ce qu'ils ont fait dans le fond. Mais ce Samaritain a cru qu'il était plus important de dire merci à Dieu avant de retourner dans sa famille. 1 Chronique 16, 34 nous dit ceci. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'un cœur reconnaissant, c'est une décision de notre part. C'est pas un hasard. Il a décidé d'être reconnaissant. Il a décidé de dire, moi là, je vais aller dire merci. Oui, j'aimerais ça y aller au temple. Oui, j'aimerais ça retourner dans ma famille. Mais avant, je vais aller dire merci au Seigneur. Et c'est important, ça. C'est une décision. Ce n'est pas arrivé par hasard. Il a décidé consciemment, même si probablement ses chums lui ont dit, « Ah, laisse faire ça, let's go, man, on s'en va au temple. On va retourner dans nos familles. » Il a dit, « Non, moi, je retourne et je vais dire merci. » La deuxième chose, après son retour, sa reconnaissance. Le verset nous dit, « Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face et il rendit grâce. » Wow! Et j'ai aimé ce que Matthieu a dit tantôt. C'est vrai, dans nos églises, souvent, on a peur de lever nos mains. Et je suis convaincu que ce gars-là, là, il avait les mains dans les airs, puis il sautait partout. Wow! Seigneur, merci! Hey, je suis sauvé! Je t'ai fait à l'os! Puis nous autres, des fois, on chante, puis on a peur, je dirais même peut-être honte, de lever nos mains. Pensez à David. David qui était quasiment tout nu, qui dansait sa femme à réduire. Qu'est-ce que David lui a dit? Je m'en fous ce que tu en penses. Moi, je veux rendre grâce à Dieu. Et c'est ça que notre ami a fait. Il a crié à haute voix. C'était pas un petit merci du coin des lèvres. Oh, merci Jésus. Non, il criait. En bon français, en québécois, je suis pas au Québec, là, mais on dirait qu'il était fou comme la merde. Hein? Il était content, reconnaissant. Et il l'a montré. Regardez ce qu'un auteur a dit. La voix de ses lépreux lui est revenue, et sa forte reconnaissance était bien différente de son soupir rauque lors de sa demande de secours. Il savait qu'il devait remercier deux personnes, Dieu et Jésus, mais il ne savait pas encore que les deux ne formaient qu'un. Sa guérison l'a amené beaucoup plus près de Jésus, et maintenant, il se retrouve à ses pieds. C'est là qu'il a vu qui était Jésus. Que Jésus et Dieu étaient le même. Mais l'auteur ajoute ceci. Le nombre de ceux qui ne revinrent pas pour dire merci était beaucoup plus grand que celui qui revint pour montrer sa reconnaissance. 1/10. On peut se poser la question. Est-ce que Jésus s'attendait la reconnaissance? On peut se poser cette question-là. Il est revenu, le gars, puis c'est correct. Mais est-ce que Jésus s'attendait à avoir la reconnaissance de ce qu'il avait fait? Regardez ce que versets 17 et 18 nous dit. Jésus prenait la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Est-ce que Jésus s'attendait à avoir la reconnaissance? Absolument. Jésus pose la question à la foule. C'est drôle. Il y en a 10 qui ont été guéris. Il y en a juste un qui a dit merci. Jésus s'attendait à de la reconnaissance envers les 10 lépreux. Mais voyez-vous, il y en a juste un qui a décidé de mettre la gloire de Dieu avant ses propres besoins. Et c'est une leçon pour nous autres. Luc veut nous enseigner, comme ce lépreux, Jésus s'attend à la reconnaissance. Et je dis, il n'y a trouvé que cet étranger, ce Samaritain. Et dans le temps, les Samaritains, c'était des moins que rien. C'était des gens que les Juifs haïssaient. Et Jésus dit pourtant, et c'est pas par dégoût qu'il dit ça, mais pour dire, là, celui qui était le moins prompt à revenir de la gang, celui qui n'était même pas un vrai juif, c'est le seul qui est revenu. Celui qui aurait dû être le moins, dans le fond, qui aurait dû revenir, il est revenu. Les Samaritains croyaient seulement qu'aux 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, ils adoraient Dieu sur le mont Garizim plutôt qu'à Jérusalem. Ils étaient les ennemis des Juifs. Mais pourtant, c'est lui qui est revenu. Et je vous dirais, mes frères et mes sœurs, vous ne serez certainement pas surpris si je vous dis que l'ingratitude, les murmures, le manque de reconnaissance, c'est un péché qui ne plaît pas à Dieu. Jésus le dit. Ils sont où, ça? Ils étaient supposés venir me dire merci puis qu'ils ne l'ont pas dit. Si Christ s'attend à ce qu'un lépreux, samaritain, revienne dire merci, est-ce qu'il s'attend à ce que son peuple le loue, le remercie, lui rende grâce, l'adore? Absolument. Absolument. Il ne faut jamais oublier que Christ a marché vers la croix, vers une croix pour mourir, pour mes péchés, et tes péchés. Et ça, c'est bien plus important que d'être guéri de la lèpre. Je dirais qu'il faut avoir l'attitude que l'auteur des Hébreux nous dit. Il dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Tu as parlé du royaume tantôt, hein? Serge a parlé du royaume. On vit dans ce royaume, les fils de roi. Il dit, ayant reçu un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Les mains dans les airs, amen! Des fois, on parle de nos frères, les pentecôtistes, mais des fois, il y a des choses qu'on a compris que peut-être qu'on n'a pas compris. Il ne faut pas avoir peur de dire merci au Seigneur. Les mains dans les airs. C'est pas honteux. David l'a fait, ce lépreux l'a fait. Je ne suis pas en train de vous chicaner, là. Je ne suis pas différent. Je vais juste vous dire. On a besoin d'apprendre. Colossiens 3:17 nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Est-ce qu'on a des raisons de dire merci au Seigneur ce matin? Absolument. La première, Denis, Joanne sont ici ce matin. Comment on peut dire merci au Seigneur? Pensez à ce lépreux. On était tous des impurs. Christ nous a rendus purs. On va juste prendre les messages sur les différents miracles. Comme ce paralytique, aucun de nous autres n'est incapable de venir à Dieu par nous-mêmes. Dieu nous a envoyé des gens pour nous porter, pour nous attirer à lui. Comme les disciples sur la mer de Galilée, on va avoir des tempêtes dans nos vies, mais une chose est sûre, Christ ne nous abandonnera jamais. Jésus a dit, allons de l'autre bord, on va se rendre. Prendre grâce au Seigneur pour ça. Comme le démoniaque dans ses chaînes, chacun de nous, qu'on était en Christ ce matin, on était captifs. Et Christ est venu briser nos chaînes, nous libérer de notre esclavage. Et je dirais sans compter que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, se renouvellent chaque matin, comme le dit Jérémie. Chacun de nous, ce matin, on s'est levé dans un lit. On avait un toit sur notre tête. On a une famille, des amis, une église. Et si tu es uni en Christ, chacun de tes péchés, passés, présents, futurs, ont été lavés, enlevés de ton record. Moi, avant que le Seigneur me sauve, là, il y avait une pile de tous les péchés que j'avais commis. Et Christ a dit, tout ça, c'est effacé. Imaginez. Est-ce qu'on ne peut pas être reconnaissant au Seigneur? C'est bien plus grand, ça, que d'être libéré de la lèpre. La foi sincère reconnaît trois choses. Christ est la seule source de bénédiction, de guérison et de pardon. Comme ce lépreux samaritain, cette reconnaissance s'exprime par de la louange au Seigneur. Je repose la question, est-ce qu'on a des raisons pour rendre grâce au Seigneur ce matin? Bon, vous ne me convainquez pas pantoute. Ouf! J'ai vu beaucoup de mains dans les airs, là. Est-ce qu'on a des raisons de rendre grâce au Seigneur ce matin? Absolument. Absolument. On devrait crier, sauter de joie si on est vraiment conscient de la grâce et de la bonté de l'Éternel envers de nous à chaque jour. À chaque jour. M. Richard Phillips a dit ceci dans son livre sur les miracles de Jésus. Combien notre Seigneur compatissant doit s'attrister de voir qu'il nous arrive plus souvent de s'intéresser à ses dons qu'à lui-même. Pensez à ça. Combien notre Seigneur compatissant doit s'attrister de voir qu'il nous arrive de s'intéresser plus à ses dons qu'à lui-même. Donc, son retour, sa reconnaissance et finalement, sa renaissance. Il est important de remarquer que ce n'est pas sa reconnaissance qui a sauvé le lépreux. Personne ne sera jamais sauvé pour avoir venu dire merci ou pour être reconnaissant de ce que Dieu a fait. Et Dieu fait beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens. Mais ça ne sauve pas personne. Personne ne sauvé pour avoir dit merci. Regardez le verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. Il est venu l'adorer. Il est venu reconnaître que Jésus était Dieu. Et la Bible nous dit, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est venu adorer Jésus pour qui Jésus était. Il a cru dans Jésus. Ce n'est pas parce qu'il est venu dire merci. C'est parce qu'il est venu tomber aux pieds du Seigneur et puis reconnaître qui il était lui et qui était Jésus. C'est ce qui fait toute la différence. Ce verset nous suggère que les 10 lépreux ont été guéris, mais qu'un seul a reçu le pardon de ses péchés. Voyez-vous, à cause de sa foi, cet homme-là a été doublement béni. Parce que son corps a été lavé, mais son âme aussi. C'est ce qui fait toute la différence. Les 9 autres ont eu le corps guéri. Mais lui a eu le corps et l'âme. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, à lui seul, « Va, ta foi t'a sauvé. T'es sauvé, mon ami. » En toi puis Dieu, là, c'est réglé. Wow! Juste parce qu'il est revenu dire merci, et en revenant à dire merci, il a vu qui était Jésus. Est-ce qu'on voit la différence entre les deux? Hein? C'est la même guérison, mais beaucoup de différence entre les deux. Voyez-vous, je dirais, les 9 autres avaient l'attitude typique de la nation juive durant le temps du ministère de Jésus. Le peuple voulait les bénédictions du Seigneur. Les guérisons, les résurrections, les miracles, le pain en abondance, mais pas un Messie et un roi qui règne au-dessus d'eux. Et je dirais malheureusement, c'est comme ça dans nos églises, des fois. On veut le Jésus sauveur, mais on ne veut pas le Jésus Seigneur. Mais savez-vous quoi? Les deux vont ensemble. On ne peut pas avoir juste le Jésus sauveur et sans avoir le Jésus Seigneur. Ça ne marche pas. Les deux sont inséparables. 1 Pierre 3,18 nous dit ceci. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Christ ne veut pas simplement être une roue de secours qu'on appelle quand on a besoin. Il veut être notre maître et notre Seigneur. Un auteur a fait ce commentaire. Dans cet incident, les 10 ont réintégré leur communauté respective. Cependant, un seul s'est joint à la communauté créée par Jésus, où la distinction entre les Juifs et les païens a disparu. Comme l'apôtre Paul nous dit, vous étiez loin, vous avez été rapprochés. Christ a fait la paix entre nous et Dieu, et a fait la paix entre nous et les Juifs. Il y avait un mur qui nous séparait, et Christ a enlevé ce mur-là. Et c'est pour ça que Jésus a dit à cet étranger, à ce Samaritain, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » En conclusion, voyez-vous ce que ça me dit? C'est que ces lépreux-là, ils ont absolument rien. Ils n'ont eu absolument rien à faire pour être guéris. Ils n'ont rien emmené au Seigneur Jésus. Ils sont allés impurs, comme ils étaient, et Christ, dans sa grâce, leur a fait du bien. Mais je me suis posé cette question-là. Daniel, t'arrives-tu de prendre le Seigneur Jésus que juste comme un nouveau de secours? Ou est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter et de remercier le Seigneur sérieusement pour toutes ses bontés, sa grâce, le fait qu'il t'a sauvé, qu'il prend soin de toi tous les jours? C'est important de le faire. Vous savez, il faut se poser des questions honnêtes des fois. Psaume 139 nous dit ceci. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonde mon cœur, Seigneur. Si je manque de reconnaissance, si je te prends souvent comme une roue de secours plus que comme un sauveur, je te demande pardon. On peut le faire. Alors, j'en sais que mon épouse, quand je vais parler du message, mon épouse m'avait dit, « Tu vas-tu conter l'histoire de la femme aveugle? » Et j'avais oublié cette histoire-là, mais je pense que je l'ai déjà contée ici, mais je vais la raconter parce que si vous êtes comme moi, vous avez une bonne mémoire, mais elle ne dure pas longtemps. C'est un jour, une femme est aveugle. Et durant toute sa vie, elle a un ami à côté d'elle. Son ami s'occupe de elle. À tous les jours, il en prend soin, il l'amène où elle a besoin. C'est tellement gentil. Et un jour, elle reçoit un appel. « Madame, on a un donateur. Quelqu'un a décidé de donner ses yeux pour vous. Et on aimerait vous opérer. » La dame dit « Ah oui? » Fait que son ami dit « On va aller à l'hôpital. » Fait qu'il s'en va à l'hôpital. Plusieurs mois plus tard, on enlève les bandeaux de la madame et elle voit. Et elle voit son ami. Et elle s'aperçoit qu'il n'est pas super beau. Et en plus, il est aveugle. Fait qu'après un petit bout de temps, elle décide de le laisser. Lui qui avait pris soin d'elle durant toute sa vie. Quelques mois après, elle reçoit une lettre de son ami. Et la lettre dit ceci. Ma chère amie, je suis bien content que tu vas mieux. Mais je te demande, s'il vous plaît, de prendre soin de tes nouveaux yeux. Parce que ce sont les miens. Parler de manque de reconnaissance. Hein? On est-tu coupable de ça des fois devant le Seigneur? On peut se poser la question. Est-ce que j'ai besoin de reconnaître mon manque de reconnaissance et demander pardon au Seigneur? J'aimerais juste qu'on prenne une minute. Priez. Chacun, si vous avez besoin de demander pardon au Seigneur. Sinon, c'est correct. Mais si oui, faites-le. Je vais terminer par la prière après. Père, on va venir devant toi et me dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est tellement riche. Seigneur, merci parce que tu as permis aux écrivains de la parole, Seigneur, de nous laisser des témoignages. Tu as permis, Seigneur, à Luc, inspiré de conter l'histoire de deux miracles bien différents. Avec une fin qui est semblable, mais les circonstances étaient bien différentes. Merci parce que Luc nous rappelle dans ce passage, Seigneur, que tu étais en route vers Jérusalem, tu étais en route vers la croix, tu étais en route vers les pires moments de ta vie. Mais malgré ça, malgré ça, Seigneur, tu as arrêté. Quand les hommes, on dirait, sans, avec peu de foi, qui ont même pas osé aller vers toi, qui ont crié à toi, tu les as entendus dans ta grâce, dans ta compassion, tu les as répondu. Merci parce que tu as fait du bien à ces 10 hommes. Mais malheureusement, un seul a eu à cœur de venir et t'a dit merci. Seigneur, combien souvent je suis coupable de mon manque de reconnaissance. Seigneur, merci pour cette grâce infinie. Cette grâce infinie qui un jour m'a vu. Pendant que j'étais aveugle, rebelle. Et tu m'as sauvé. Seigneur, donne-moi jamais oublier la grâce que tu m'as faite. Et donne-moi, Seigneur, comme ce Samaritain, d'avoir un cœur reconnaissant. De venir tomber à tes pieds et te dire merci. Merci pour Denis qui est ici ce matin, aussi, Seigneur Joanne. Seigneur, mets ta main sur cette assemblée. Fais-la grandir, Seigneur, dans la foi. Encore une fois, Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Et à toi seul la gloire, par le nom de Jésus.